Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat. Nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors voilà, on est très heureux ce soir. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai appelé notre émission Kabbalat Shabbat et non pas Mélève et Malka, parce que voilà, on retrouve les studios, la diffusion le vendredi soir. Alors cette émission est toujours diffusée et le vendredi et le samedi, mais maintenant, le vendredi, vous pouvez aussi la retrouver sur notre chaîne de radio, pas seulement sur les réseaux sociaux. Donc, comme de coutume depuis maintenant plusieurs semaines, Rav Eli, je vous dis Shabbat Shalom et Shavua Tov, puisque tout dépend du jour auquel vont nous écouter nos auditeurs. Shabbat Shalom et Shavua Tov. On est toujours à la poursuite de notre réflexion sur la paracha de la semaine, et donc là on est arrivé à Béchalar. Et Béchalar, c'est très connu pour être, tout le monde le sait, la paracha de ce qu'on appelle la Shira, du chant. Mais vous voulez réfléchir sur un sujet qui n'est pas exactement celui-ci, qui est très lié mais qui n'est pas exactement celui-ci. Dieu, Hachem, dit aux enfants d'Israël: je ne veux pas que vous passiez par le terrain des Philistins, parce que vous risquez une guerre. Et donc, ils se retrouvent devant la mer des joncs. Or, Dieu n'a pas de très très grandes difficultés à faire des miracles. On va d'ailleurs le voir, on l'a vu. C'est vraiment pas la chose... En fait, on parle de miracles. Alors, voilà, soyons plus clairs. Puisqu'on est en pleine narration d'un miracle, pourquoi on ne fait pas... Rav Eli Lemel, pourquoi on fait pas le miracle, il n'y a pas de guerre?
Exact. En effet, le premier verset de la paracha est quand même assez énigmatique, parce qu'il nous dit « Velon achom elokim » et que Dieu n'a pas voulu leur faire passer par les Philistim, par les Philistins. Alors, ils partaient vers le sud-est, je pense, et ils arrivaient relativement vite, enfin en 3 jours en Israël, en terre de Canaan, qui était le but final, qui dit « parce que Dieu a dit « peine de peur » qu'ils voient une guerre et qu'ils prennent peur et qu'ils reviennent en Égypte. Donc, comme vous posez parfaitement bien la question, mais au fond, mais qu'ils gagnent la guerre en 15 secondes, qu'il n'y ait pas de guerre, enfin voilà, les options sont multiples pour Dieu. Et donc, il y a quand même ici une interrogation, pourquoi au fond Hachem ne veut pas qu'il passe par les Philistins. Alors, si on réfléchit un petit peu à l'histoire du peuple d'Israël depuis le moment de l'asservissement en Égypte, ça fait quand même 210 ans d'asservissement, donc plusieurs générations d'esclaves, d'esclavage. Ils ont été habitués à un modèle dans lequel on est soumis à un maître. Et si on réfléchit, au moment de la sortie d'Égypte, ce n'est pas une révolte des esclaves, d'aucune manière. Le clan Israël est là, le clan Israël crie sa souffrance. Et comme nous le voyons dans le verset, Dieu va tal shavatam el elokim. Et Dieu écoute leurs cris, leurs souffrances et dit: ça y est, c'est bon, stop, maintenant ils doivent sortir et Moshe va faire le travail. Et le peuple d'Israël est spectateur de tout ce processus qui va les amener à la Geoula, à la libération finale. Et donc, évidemment, la question, elle est la suivante: est-ce qu'au moment où ils sortent d'Égypte, le peuple d'Israël sait ce que veut dire se confronter à un ennemi? Est-ce qu'ils savent ce que veut dire se positionner face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils veulent faire? Eh bien non. Non, c'est quelque chose qui n'a jamais existé pour l'instant. Et donc, évidemment, la difficulté, c'est quoi? J'ai envie d'ouvrir une réflexion peut-être un tout petit peu plus large. Le problème de la guerre, c'est quoi? C'est le conflit. Le conflit parce qu'il y a des accords, soit parce que tu veux me prendre mon territoire et tu considères que c'est le tien, soit tu veux te l'approprier parce que tu penses qu'il est mieux chez toi que chez moi, mais le conflit, c'est un conflit aussi idéologique. Et nous avons vu d'ailleurs bon nombre de conflits qui ont eu lieu ou qui ont failli avoir lieu sur la base, pardonnez-moi, d'idéologies qui sont complètement opposées les unes aux autres. Et donc, si on se met dans la perspective de ce que va devoir être le peuple d'Israël dans l'histoire, le peuple d'Israël va être générateur de conflits. Et oui, même si le peuple juif, on va dire, ne cherche pas le conflit, mais néanmoins, il va générer le conflit à travers ce qu'il est. Et pas tant le conflit géographique, mais le conflit idéologique. Pourquoi ? Le peuple d'Israël va avancer dans l'histoire en incarnant une certaine idée de l'existence, une certaine définition des valeurs primordiales autour desquelles l'individu doit vivre, et à travers cela, il va se retrouver face à d'autres systèmes de pensée qui seront dérangés, non pas juste par cette pensée, mais par le fait qu'il y a un peuple qui l'incarne, et en l'incarnant, s'inscrit parfaitement dans l'histoire, et plus que cela, il peut être source d'exemple de par non seulement sa réussite, mais la manière dont il arrive à préserver cette identité tout en s'inscrivant à l'intérieur de l'humanité. Et donc, de facto, c'est un conflit. C'est un conflit parce que le peuple juif, dans son histoire, va attiser cette interrogation et donc, à partir de cela, générera des haines. On va voir, d'ailleurs, que les maîtres du Talmud nous disent pourquoi le mont Sinaï s'appelle le mont Sinaï. Eh bien, parce que Sinaï, c'est un homonyme avec le terme Sin'a. Ça ne s'écrit pas de la même manière, c'est un homonyme. Et Sin'a, c'est la haine. Et si vous regardez le mot Sin'a, sonner, celui qui a de la haine, sonner, ce sont les mêmes lettres que le mot sonner et chonner. C'est-à-dire, nocer, c'est supporter, chonner celui qui est la différence, celui qui est différent. Sonner, nocer, chonner. C'est chaque fois les mêmes lettres, mais organisées différemment. Haïr quelqu'un, c'est parce que tout simplement on ne supporte pas sa différence qui nous interpelle et qui nous remet en cause. Or, c'est ce que va être le peuple d'Israël tout au long de l'histoire. En deux mots, notre positionnement va générer à un moment un conflit. Et Dieu réalise que le peuple d'Israël n'est peut-être pas encore suffisamment construit pour se confronter à ce conflit. Il va passer par les Philistim, les Philistim vont partir en guerre. C'est-à-dire, ils vont dire, mais au nom de quoi vous avez décidé de faire quelque chose alors que nous ne sommes pas d'accord ? Et le peuple d'Israël n'a peut-être pas encore suffisamment construit de certitude sur la nécessité pour eux d'aller dans leur chemin de vie, c'est-à-dire vers la terre d'Israël, et ils risquent de rebrousser chemin et de se dire, bon, mais au fond, on repart en Égypte. En Égypte, où nous ne serons sans doute plus esclaves, parce que l'esclavage s'est terminé, mais dans lesquels, on se contentera d'être ce qu'on a toujours été. C'est-à-dire, au fond, un peuple qui est là, qui a conservé en effet son identité, comme dit le texte, mais non pas de manière bouleversante. On restera ce qu'on est, et puis ça s'arrêtera là. Et on n'incarnera pas quelque chose. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit non. Ils doivent partir dans le désert, ils doivent partir en effet dans ce lieu dans lequel ils vont prendre le temps de construire réellement leur identité. D'ailleurs, on verra que par la suite, le peuple d'Israël va se retrouver face à Amalek, mais c'est Amalek qui va à sa rencontre et qui cherche à le détruire, mais à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui a commencé à se construire. Il y a déjà une identité qui a commencé à se mettre en place, et donc, ils vont pouvoir, face à cette attaque d'Amalek, résister, avancer et créer véritablement ce que doit être leur histoire. Au-delà de ça, on peut aussi imaginer dans une seconde lecture Derech Eretz Pelishtim Kikarovu, peut-être que aussi Dieu ne veut pas, dans une autre traduction, évidemment, Derech Eretz, du mode de fonctionnement des Pelishtim, c'est-à-dire que le peuple d'Israël se confronte au modèle des Philistins alors que lui-même n'a pas suffisamment construit son propre modèle. Les Plishtim, c'est une peuplade qui n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que ce que Dieu désire pour son peuple. Et quand vous n'êtes pas suffisamment construit et que vous vous retrouvez face à un univers autre, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit celui-ci qui vienne et qui nous absorbe. Voilà un petit peu le début de cette paracha. Et donc, Dieu dit, voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener vous construire. Traduction. Je peux parfaitement vous amener en Israël. Et tout de suite. Et les Philistins ne feront pas la guerre. Mais en Israël, est-ce que véritablement, vous allez construire votre identité ? Non. Mais pourquoi non ? Parce que tout simplement, vous allez vous retrouver tout de suite face à la nécessité de créer une politique, de créer une économie, de créer un système agricole. Et donc, ce temps nécessaire pour construire en profondeur votre identité, vous ne l'avez pas. Et puisque vous ne l'avez pas, vous risquez d'être sur une terre, mais sans identité véritablement construite, qui est inscrite au plus profond de vous-même. Au fond, ce passage dans le désert, il est nécessaire pour pouvoir justement créer cette force intérieure qui permettra par la suite au peuple d'Israël d'avancer dans son histoire. Vous savez, j'ai envie de comparer cela à la construction d'un enfant. Un enfant, il faut en faire un culbuto. Vous savez ce que c'est un culbuto ? C'est voilà, cette sorte de petite poupée qui est là, mais dont la base est sphérique et est très lourde, lestée de plomb, que sais-je. Et puis le culbuto, souvent, il y a un petit grelot en haut, voilà, comme ça, quand on le bouge, ça fait du bruit. Mais le culbuto, les enfants le poussent, il va vers le sol, mais comme la base est extrêmement lourde, elle est lestée, eh bien, c'est une sphère, il remonte automatiquement. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on doit faire au niveau d'un enfant, lui donner une base suffisamment solide pour que même si à un moment la confrontation au monde peut le faire vaciller de droite et de gauche, mais néanmoins il est suffisamment construit de l'intérieur pour pouvoir par la suite tout seul se remettre droit et continuer à avancer. C'est un petit peu ce que Dieu va faire. Donc oui, on ne passera pas par le chemin des Philistim. Parce que s'il y a une guerre, ils ne sont pas assez positionnés. Et si je fais un miracle, ils arriveront en Israël, mais au bout de 3 jours seulement. Et toute cette construction que va leur amener leur désert, le désert, n'aura pas encore eu lieu. Et ils ne peuvent pas créer un système si cette dimension n'a pas encore été installée en profondeur chez eux.
Rav Eli Lemel, j'ai bien entendu j'ai tout entendu évidemment, mais il y a un mot, parcours de vie. Donc on va essayer de suivre ce parcours avec cette feuille de route que vous nous avez donnée. Et je vous remercie pour cette très belle dracha. Shabbat Shalom et Shavua Tov. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom et Shavua Tov.
On part à présent pour Jérusalem, on le retrouve le Rav Mordechai Bitton. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Rav Mordechai.
Shabbat Shalom et Shavua Tov, Shalom Aleichem à tout le monde.
Voilà, on le rappelle, on va le rappeler durant toute l'émission. On peut désormais nous retrouver le vendredi soir à 16h30 sur la radio, pas seulement sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on nous retrouve toujours, mieux vaut deux fois qu'une, le samedi soir à 19h. Alors, Rav Mordechai Bitton, vous voulez réfléchir, vous, sur la notion de miracle. Alors, bon, c'est un peu dans la lignée de ce que vient de dire Rav Eli Lemel, mais c'est tout à fait autre chose. Vous dites, on en a vu déjà des miracles. Pourquoi celui-là est particulier? Donc, on parle de la traversée de la mer. Et pourquoi on le répète autant? Et pourquoi tous les jours? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet événement, Rav Mordechai?
Absolument, et la question est renforcée par le fait que tous les matins, on va chanter la Shira, le cantique que les Bnei Israël ont chanté donc au sortir de la mer Rouge. Et nos textes nous disent que tout celui qui le chante avec joie, eh bien ses fautes lui sont pardonnées. Donc ça va très très loin. On nous dit que l'énoncé de ce miracle, la répétition quotidienne de ce miracle avec joie, comme si, et le mirage va très loin. Là je dis, on doit se considérer, le Mishnah Berurah aussi, qui est un livre de Halakha, donc de loi, nous dit, tous les matins, on doit visualiser qu'on vient de sortir de la mer Rouge, on vient de vivre ce miracle, et on est là, et on chante un cantique, une shira, donc, à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que nos sages nous disent, cacher les zivougam, ils nous disent que le zivou, c'est-à-dire le mariage, et la parnassa également, la subsistance, c'est caché, c'est dur, comme Kriyat Yam Souf, comme ce qui s'est passé donc au moment du passage de la mer Rouge. Alors là aussi, la question est renforcée, parce que qu'est-ce qu'il y a de dur pour Akadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce qu'il y a de difficile ici ? Alors pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre une chose qui a trait à la manière dont Pharaon lui-même considérait l'être divin. Comment est-ce que Pharaon et comment est-ce que les nations du monde dans l'Antiquité considéraient l'être divin ? Il y avait dans la philosophie de ces civilisations une impossibilité, on va dire, une impossibilité philosophique. Ils étaient incapables de concevoir que le bien et le mal puissent venir d'une même source. Pour Pharaon, il y avait la source du mal et la source du bien. Et pour lui, Dieu, en quelque manière, Chas v'Shalom, était la source du mal. À chaque fois que Dieu était apparu à des hommes dans l'Antiquité, par exemple à Avimelech, qui avait pris en otage Sarah, ou à Pharaon, l'ancêtre de Pharaon qui avait pris en otage Sarah, à chaque fois, ils avaient subi des plaies. Donc ils avaient placé Dieu dans la catégorie du mauvais. Quand Moïse apparaît, quand Moshe apparaît sur la scène de l'histoire égyptienne et qu'il dit « laisse partir mon peuple » et que les 10 plaies s'abattent sur l'Égypte, Pharaon dit « Dieu, c'est le symbole du mal. Il ne peut pas vouloir autre chose que du mal pour son peuple. » Moshe Rabbeinu, Moïse, et nous les Juifs, on dit autre chose. On dit « HaKadosh Baruch Hu est la source de tout, de ce qui peut nous procurer du bien et de ce qui peut nous procurer ce qu'on appelle du mal, qui est en fait une douleur. » Et donc, en quelque sorte, c'est ici une confrontation, on va dire philosophique dans un premier temps, entre une pensée qui est une pensée idolâtre, qui pense que finalement le monde spirituel est morcelé en différentes forces, et que cette source-là, qui s'appelle le Dieu d'Israël, serait la source du mal, la source de la souffrance, et une pensée qui est une pensée qu'on va qualifier de juive, une pensée hébreu, une pensée qui est celle de la Torah, qui est celle de Moshe Rabbeinu, qui est de dire, sache que ce Dieu qui va nous délivrer, c'est un Dieu qui est la source du bien, et la source de ce que les hommes veulent appeler le mal. Et en fait, quand on dit que la traversée, la subsistance ou le zivoug, le fait de se marier, c'est caché qu'est Kriyat Yamsouf, c'est parce que dans Kriyat Yamsouf, dans le miracle de la traversée de la mer Rouge, va se jouer ici une espèce de concomitance entre ce qu'on appellerait le bien et le mal. De quoi on parle ? C'est qu'en fait, d'un côté, il y a la destruction de Pharaon et l'anéantissement définitif de l'Égypte comme force idolâtre. La civilisation égyptienne est engloutie, hein, finalement, dans la mer Rouge. Et en même temps, il y a la libération du peuple juif. Alors, du point de vue égyptien, c'est mal. De notre point de vue, à nous, c'est le bien. Avec notre recul historique aujourd'hui, on parle de cet événement comme un événement qui appartient à la sphère du bien. Et finalement, les civilisations de l'Antiquité l'auraient rangé dans la sphère du mal. Et donc, en fait, ce qui a été montré ici, dans cet événement-là, c'est que le Dieu qui va punir les Égyptiens, c'est le Dieu qui libère le peuple juif. Que le Dieu qui va donner la manne, comme on le voit dans la paracha, c'est aussi le Dieu qui va appeler Amisraël à grandir. Le Dieu qui va, à un moment donné, soumettre le peuple juif à l'épreuve d'Amalek, qui va attaquer le peuple juif, c'est aussi le Dieu qui va donner l'eau, qui va donner à manger, qui va donner à boire, qui va donner la subsistance. Quel est le cauchy, la difficulté auquel on est confronté? Pourquoi est-ce que nos sages nous disent la subsistance et finalement le couple, la formation du couple, c'est comme la mer Rouge, c'est l'équivalent de la mer Rouge. Parce qu'il y a ici quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dur. C'est de comprendre qu'en fait, la source de tout, c'est HaKadosh Baruch Hu, en fait, il nous donne à parfois des cadeaux qui sont des épreuves, il nous donne parfois des souffrances, qui sont en fait un bienfait. Et que ça, les pensées, la pensée de l'Antiquité, la pensée philosophique de l'Antiquité n'était pas capable de l'envisager, alors que nous, c'est une donnée de base de la Torah, c'est une donnée de base de notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Cette idée, ce mode d'intervention dans lequel Kadosh Baruch Hu, finalement, rétribue, c'est la base du judaïsme. Kadosh Baruch Hu rétribue, mais il rétribue parfois d'une manière que nous avons du mal à comprendre. Il y avait un Bachdiach, par exemple, un directeur spirituel du Yeshiva qui disait toujours « Quelle est la différence entre une caresse et une claque ?» Il disait « C'est la vitesse. » Mais dans les deux cas, une claque peut être une caresse, et une caresse peut être une formidable baffe. D'accord ? Il y a des gens qu'on va caresser dans le sens du poil toute leur vie et que finalement on envoie dans un trou. Il y a des gens qui vont subir des épreuves, allez-nous, mais que ces épreuves vont les faire grandir et leur permettre d'arriver au bien. Et puis d'une certaine manière, on sait très très bien que finalement le nisayon d'épreuve fait grandir l'individu, alors que l'absence d'épreuve, nos sages nous disent, c'est la preuve de la haine de Dieu à l'égard de l'homme, en quelque sorte. Un homme qui n'a pas d'épreuve, je dis, allez-nous, parce qu'on n'en veut pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on doit, on doit quand même être capable de les regarder comme ça. Et un homme qui n'a pas d'épreuve, c'est quelqu'un qui est détesté de Dieu. Donc, nous comprenons, et c'est une donnée de base, finalement, de notre pensée, de notre réflexion et de notre mode de vie, c'est de considérer que Hachem est la source absolue du bien, mais que ce bien peut être exprimé par des choses qui nous font profondément plaisir ou par des choses qui peuvent parfois nous amener à une certaine souffrance. Mais Hachem est la source du bien. Et dans Kriyat Yamsouf, dans ce miracle-là, on va se rappeler que Hachem a été en même temps la source du bien pour nous, en même temps la source de la souffrance pour les Égyptiens. En débarrassant le monde des Égyptiens, il permet à Amisraël d'émerger sur la scène de l'histoire, d'aller recevoir la Torah et d'amener un bien qui va devenir un bien universel. Parce que finalement, la Torah est à la source de tous les monothéismes. Aujourd'hui, il y a 5 milliards de gens sur la planète qui, aujourd'hui, d'une certaine manière ou d'une autre, ont puisé leur source, la source de leur enseignement et la source de leur mode de vie dans la Torah. Donc il y a là ici un événement qui est un événement majeur. Autant les 10 plaies d'Égypte montraient que HaKadosh Baruch Hu avait une toute puissance sur la nature, autant dans Kriyat Yamsouf, ce que HaKadosh Baruch Hu montre, c'est qu'il est la source de tout et que c'est à l'homme de comprendre que ce qu'il advient dans sa vie est profondément bon pour lui et que pour ça, parfois, effectivement, il doit franchir certaines barrières psychologiques psychologique, morale, philosophique, on va dire, et que Pharaon, lui, n'en était rien, parce qu'il est venu Israël, en était, oui, capable, et c'est pour ça qu'ils ont mérité, à la suite de Kriyat Yam Suf, donc d'aller, de recevoir la Torah. C'est pas la relation directe, mais c'était le chemin, c'était là. Il fallait passer par ça, il fallait grandir dans cette émouna. C'est la signature finale, finalement, de l'acquisition d'une forme de émouna qui est fondamentale. Savoir que le Zmohu conduit la nature, c'est une chose, mais comprendre que tout est pour le bien, c'est une maturité dans l'Emouna qui est absolument phénoménale. Et pour faire le lien avec notre actualité, on vit aujourd'hui la corona, on vit une mutation anglaise aujourd'hui que personne ne contrôle, on vit aujourd'hui, ici en Israël, une espèce de balagan généralisé, mais quand on arrivera au Mashiach, et j'espère bientôt, on se rendra compte qu'on est passé ici par une citation qui, en fait, nous a fait grandir dans l'Emouna, et nous a permis de comprendre, de réfléchir différemment sur, finalement, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans la vie de l'humanité. C'était une citation, mais on le saura à rebours. Voilà, par exemple, quelque chose qui peut être un parallèle avec ce que les Bnei Israël ont ressenti après être passés par Kriyat Yam Suf. Et ça justifie en soi, évidemment, ce Shabbat formidable, qu'on appelle Shabbat Shira, où on va chanter très très fort cette Shira, ce cantique, et on va plus et mieux réfléchir, je pense, sur notre Emouna.
Notre Emouna, et comme vous l'avez dit, y compris sur ce que nous passons en ce moment, dans nos vies, partout à travers le monde, c'est ça qui est extraordinaire. Tous les êtres humains connaissent la même épreuve. Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Et Shabbat Shalom et Shavua Tov.
Shabbat Shalom et Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, Shabbat Shalom et Shavua Tov. Maria Chadré, on continue avec notre parasha Béchalach. Et vous posez une question, enfin une réflexion. Vous dites, finalement, l'incertitude, même probablement l'angoisse ressentie par les Juifs devant la mer, elle vous et elle nous rappelle beaucoup ce que nous vivons aujourd'hui.
Ouais, je vous assure exactement. C'est la première fois que je lis la paracha de Béchalach, hein, et pourtant je l'ai lue de nombreuses fois, mais je la lis cette année avec un regard tout nouveau, parce qu'en effet, c'est vraiment la paracha qui concerne le principe de Emouna, de confiance en Dieu, de Bitachon plus exactement, donc la certitude qu'Hachem intervient dans nos vies. Et il est vrai que du début à la fin, on a ce principe d'Emouna et cette inquiétude. La Emouna, si nécessaire, encore plus, nécessaire tout le temps, mais encore plus dans les moments d'inquiétude et d'incertitude. D'abord, vous savez, c'est la paracha dans laquelle la manne va descendre, va tomber du ciel, et ce pendant 40 ans, elle va miraculeusement nourrir les Hébreux. Eh bien, cette manne, tout d'abord, première idée que je trouve délicieuse, c'est le cas de le dire concernant la manne, eh bien, pourquoi la manne s'appelle la manne? C'est le verset, en fait, qui le dit. Ils ont vu quelque chose de bizarre qui tombe du ciel, et ils sont sortis, ils ont regardé, et ils se sont dit l'un à l'autre, « Manhu ». « Manhu », littéralement, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Alors, il faut imaginer la scène, là, des flocons qui tombent avec de la rosée, et puis, ils vont ensemble, en bande, en groupe, et ils disaient, dis-moi, t'as vu ça? À ton avis, qu'est-ce que c'est? Manhu, qu'est-ce que c'est? Et alors, Moshe vient, il dit, bah justement, vous aviez dit que vous avez faim, bah c'est le pain, c'est ça que vous allez manger. Et du coup, ils ont dit, bah alors, il faut trouver un petit nom pour cette chose-là qui descend du ciel. On ne peut pas l'appeler du pain, puisque ce n'est pas du pain. Eh bien, appelons-le du qu'est-ce que c'est. Appelons-le man, c'est-à-dire appelons-le du qu'est-ce que c'est. Et en réalité, je crois que dans notre vie, à nous tous, à tous les jours, on mange beaucoup de qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est la grande question quand on est face à un événement étonnant. On n'arrive pas du tout à définir les contours de cet événement, à comprendre sa cause, sa conséquence, d'où il vient et vers où on va. Eh bien, je crois qu'on est tous dans une période de manne, pour ainsi dire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire dans une période de qu'est-ce que c'est. Alors, il va s'avérer que la manne est délicieuse. Eh bien, c'est toute l'idée de la Emouna. C'est-à-dire qu'on a du qu'est-ce que c'est en face de nous, on a quelque chose de très bizarre, d'étonnant, d'étrange, Et puis, on espère que ce sera délicieux, on espère qu'on va en faire quelque chose. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe dès l'ouverture de la paracha. Quand ils sont devant la mer, ils ont les Égyptiens à leur trousse et ils sont en crise. Ils se mettent à pleurer, à crier, à prier également. Et Moïse va les rassurer, leur dire « Écoutez, Dieu va combattre pour vous et vous taisez-vous. Il ne vous reste plus qu'à avancer, dit Rashi, parce qu'il n'y a pas de mer devant vous. Vous avez un sentiment de noyade, mais rassurez-vous et avancez. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont avancer. On va avoir la fameuse, le fameux septième jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer. Et alors, j'ai trouvé extraordinaire cette comparaison que fait la Gemara dans Psachim, dans le traité Psachim. La Gemara nous dit qu'on peut comparer trois grandes inquiétudes humaines à l'ouverture de la mer. Et ces trois grandes inquiétudes humaines sont évidemment les trois fondamentaux d'un individu, à savoir sa parnassa. La Gemara dit « Kachin mezonotav shaladam », le mazon c'est la nourriture, donc toute la difficulté à avoir une subsistance honnête et qui puisse nous combler. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. Les afgam, le zivoug, trouver son âme sœur, c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. Et enfin, nekavav shaladam, c'est-à-dire ses orifices intérieurs, c'est-à-dire les échanges à l'intérieur de notre corps qui font qu'on peut avoir une circulation du sang comme nécessaire et être en bonne santé. Donc la santé, la parnassa, la subsistance et trouver son âme sœur. Eh bien écoutez, quand j'ai relu ça, je me suis dit c'est extraordinaire, c'est exactement les trois domaines, je crois, les plus impactés par le Covid. Le Covid a impacté évidemment la santé. Et nous avions toute confiance en la santé, en la science plutôt, dans le monde scientifique. Et voilà que le monde scientifique part complètement en cacahuète, si je peux me permettre cette expression. Je ne sais même pas comment dire, mais en fait, on entend une chose et son contraire, et qu'il y aurait des mutations dues au vaccin et pas au vaccin. Enfin bref, on nage dans une incompréhension magistrale. Et voilà que c'est la santé qui est tellement impactée par le Covid. Eh bien, la Torah, la Gemara dans Psachim nous dit, mais oui, bien sûr, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer, on va tout de suite expliquer. Deuxième élément, la Parnassa. Il n'y a qu'à ouvrir Radio Shalom pour entendre ô combien c'est difficile de se réinventer, de se réadapter, de faire les choses différemment pour pouvoir s'assurer une subsistance. Et bien sûr, toute la notion de couple, alors les rencontres, faire des mariages qui sont extrêmement difficiles et construire son couple quand on est en télétravail, quand il faut changer nos systèmes de vie, nos façons de vivre de façon générale, c'est beaucoup plus difficile de construire sereinement son couple. Et donc voilà, trois éléments impactés par le Covid qui sont les trois éléments comparés à l'ouverture de la mer. Alors, ce qui a été très difficile dans l'ouverture de la mer, eh bien, c'est d'abord de se jeter à l'eau. C'est de décider d'avancer, de ne pas être inerte dans l'attente qu'un miracle arrive. Il a fallu d'abord, pour que le miracle arrive, il a fallu d'abord agir et d'abord rentrer dans l'eau, c'est-à-dire accepter la situation telle qu'elle est et s'adapter à cette situation. S'adapter en décidant d'avancer. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons quand même nous marier, nous devons quand même construire nos couples, nous devons nous réinventer au niveau de la parnassa, nous devons évidemment faire ce qu'on peut au niveau de la santé pour pouvoir malgré tout avancer et bien sûr trouver le bon dosage entre la prière et l'action. Et finalement, c'est ça la difficulté des trois domaines cités dans la Gemara dans Psachim, où on aimerait tellement recevoir une feuille de route, on aimerait tellement qu'on nous dise tu fais comme ça et tu verras, ça ira tout seul, ton magasin va fonctionner, tu trouveras le bon médecin pour ton mal de dos, tu trouveras ton âme sœur si facilement en faisant telle et telle chose. On adorerait avoir une feuille de route, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un dialogue intérieur avec Dieu. Pour chaque personne, il est unique, il est singulier. Et c'est un dosage particulièrement raffiné entre la nécessité d'agir, ce que nous appelons la ishtadlout, d'agir et de faire ce que nous devons faire, et la nécessité de laisser Dieu intervenir dans nos vies. Et c'est ce juste dosage que chaque personne doit trouver, que chaque personne doit intérioriser. Et donc, on ne peut pas faire de copier-coller, on ne peut pas faire comme les autres. Pour chacun, le confinement a un goût particulier. Le couple se construit tel qu'il se construit, la Parnassa se construit telle qu'elle se construit, et à chacun de nous réadapter. Et puis, je vais même oser dire ça, puisque ce virus est si intelligent, puisqu'il crée des mutations, puisque, comme on l'a entendu à propos des Israéliens qui ont été extraordinaires et qui ont vacciné en masse, eh bien, il semblerait, enfin, ils se sont posé la question, peut-être que le fait d'avoir vacciné en masse a provoqué une mutation, c'est-à-dire que le virus intelligent s'est adapté à cette vaccination massive. Eh bien, je me dis que si le vaccin s'adapte, pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, nous adapter ? Pourquoi, nous aussi, on ne ferait pas une petite mutation intérieure et on s'adapterait à une vie différente, à une vie de couvre-feu, où il n'y a plus de sorties, où il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de spectacles. Mais peut-être qu'on peut nous-mêmes nous créer nos propres spectacles intérieurs, dans nos familles, dans nos foyers, avec nos enfants, avec nos proches, nous créer une vie intérieure, une vie différente, une vie autre, je dirais juste autre, et pour chacun, elle sera différente. Mais à nous de nous adapter, à nous d'ouvrir cette mer-là, on a peut-être ce sentiment, comme les Bnei Israël, la noyade à venir, mais non. Non, dit Moshe, il n'y a pas de noyade, il faut juste avancer, il faut juste s'adapter et il faut juste avoir une extraordinaire confiance en Hachem. Il a envoyé quelque chose d'étonnant dans le monde. On va bientôt fêter les 1 an, si on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas une fête, mais ça fait déjà 1 an. Donc, c'est dire à quel point il faut s'adapter. Hachem nous envoie une énorme, énorme, énorme leçon de Emouna. Et l'auteur du Divrei Israël fait cette remarque toute simple. Il dit, les lettres du mot « manhu », c'est de la manne, c'est-à-dire c'est du « qu'est-ce que c'est ?» Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Eh bien, c'est exactement les mêmes lettres que le mot « Emouna ». Voilà, à nous de nous renforcer encore un petit peu plus dans la Emouna. À nous de chanter aussi pour tout ce que nous avons, parce que c'est Shabbat Shira. N'oublions pas que c'est Shabbat Shira. Et il y a un minag, une segula, comme ça, que j'aime beaucoup, du Shla Akadosh, que je vais partager avec vous. Il dit que c'est très bien, juste avant le Shabbat Shira, donc Shabbat à venir, de prendre des miettes de pain et de les éparpiller devant le perron de sa maison ou à la fenêtre, et d'attendre que les oiseaux viennent et picorent dans ce pain. Et à ce moment-là, de se dire, voilà, les oiseaux chantent, c'est leur job, c'est de chanter. Et ils chantent alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, encore plus au cœur de l'hiver, comme maintenant. Eh bien, voilà, il y a des miettes qui arrivent, qui leur tombent du ciel, à eux aussi, et ils sont heureux, ils chantent. Eh bien, nous aussi, nous chantons pour Hachem parce que nous savons qu'il va nous apporter tout ce dont nous avons besoin.
C'est le Ravi de Belz qui est arrivé en Israël dans la semaine de Shabbat Béchalach. Et les gens autour de lui lui ont dit, mais on ne va pas chanter, on a perdu tout le monde, on n'a plus personne. Il a dit, si, on va chanter, parce que vous voyez bien que la prophétie se réalise, on va chanter. Et en vous écoutant, Mariacha, ce que je pensais à une autre relation, adéquation entre notre paracha et le Covid, puisque évidemment je buvais vos paroles pour ainsi dire, je dis, il y a autre chose, c'est aussi cette idée que quand ils arrivent devant la mer, ils disent, tu ne vas pas nous faire ça encore, maintenant. Et nous, aujourd'hui, on voit, alors, on arrive au vaccin, on se dit, bon, effectivement, ça fait près d'1 an, on commence à vacciner partout à travers le monde, on a l'impression que ça y est, on va s'en sortir. Et arrivent les variants. Et on nous dit, ouais. Mais les variants, ils sont pires. Et tu vas recommencer un confinement, et ça sera un confinement très serré, parce que la situation, elle est encore pire. Vous voyez pas un parallèle avec ces Juifs qui ont connu l'esclavage, les plaies. On les a poursuivis dans le désert. Ils disent, bon, cette fois-ci, ça y est, on va souffler, on est parti. Ah non, maintenant, il faut traverser la mer.
Ah, tellement, bravo, absolument. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans la paracha du Covid.
Eh bien, on va traverser la mer. Parce qu'il faut le faire. On va le faire. Maria Chadré, merci.
Merci à vous, Bernard. Très belle semaine.
Shavua Tov. On pense très fort à Eva Sandler pour ses institutions à Jérusalem. Le Charity, c'est lundi et mardi. Et à la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.
Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, et nous sommes en ligne avec le Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, Shabbat Shalom et Shavua Tov, suivant l'heure à laquelle les gens nous écoutent. Et on va parler du prélèvement de la challah. Alors pourquoi le prélèvement de la challah? Évidemment, parce qu'on est dans la paracha de la manne. Et on va être très, très simple pour commencer. Pourquoi est-ce qu'il faut prélever la challah, Rav David Abendanan?
Le prélèvement de la challah, initialement, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé du Pidyon HaBen. Et nous avons dit que le Pidyon HaBen faisait partie des 24 matnot kiuna, des 24 cadeaux que HaKadosh Baruch Hu a attribués au Kohanim. Eh bien, la challah fait également partie de ces attributions. Et normalement, la challah que l'on prélève, on doit la donner au Kohanim à l'époque du Beit HaMikdash. Aujourd'hui, les Kohanim n'étant plus purs, n'étant plus tahor, on ne peut pas leur donner, donc on procède différemment. Mais en tout état de cause, on maintient cette mitzvah de prélèvement. Et d'un point de vue un petit peu plus spirituel, le Mincha Trinour rapporte que le fait de prélever la challah, c'est un moyen qu'a eu HaKadosh Baruch Hu de mettre de la spiritualité dans notre nourriture matérielle. Et grâce au prélèvement de la challah, nous rendons notre nourriture matérielle. Nous lui donnons une dimension spirituelle et il justifie également comme ça la mitzvah de prélever la challah.
Alors, sur quoi est-ce qu'on prélève précisément? Par exemple, bon, évidemment les challot, mais par exemple, je sais pas, un gâteau, des beignets, du pain qu'on aurait acheté ou des challot qu'on aurait acheté.
Le prélèvement de la challah, c'est assez précis. Pour prélever la challah, il faut que la farine provienne d'une des cinq sortes de céréales: blé, orge, avoine, épeautre, seigle. Il faut, pour prélever avec bracha, qu'il y ait une quantité supérieure à 1,56 kg. Entre 1,2 et 1,56, on prélève sans bracha. En tout 1,2, on ne prélève pas. On prélève également sur de la pâte à gâteau. Si c'est une pâte qui va être destinée à être frite, du genre beignet, fricassé, il y a différents avis. Certains pensent qu'on prélève, d'autres qu'on ne prélève pas. Le Shulchan Aruch, Rav Odia Yosef aussi va dans ce sens et il pense qu'on ne prélève pas. Bien entendu, le pain qu'on a acheté à la boulangerie, si c'est une boulangerie juive, eh bien, la challah a déjà été prélevée. C'est le rôle du Rav qui fait la surveillance. Et si c'est une boulangerie non juive, eh bien, le pain d'un non juif est dispensé du prélèvement de la challah. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de prélever sur du pain qui est déjà acheté. Quoi dire de plus? C'est effectivement, donc, si c'est une farine qui ne fait pas partie des cinq céréales que je vous ai citées, on ne prélève pas, et ce, quelle que soit la quantité.
Comment se déroule Afrachat challah?
Le prélèvement de la challah, c'est en trois étapes qu'il se déroule. La première étape, ça va être le prélèvement. Alors, ce qu'on va appeler le prélèvement, il y a des différents avis. Est-ce qu'on prélève avant, est-ce qu'on prélève après? Rav Odia Yosef recommande de faire de la façon suivante. Je prélève un petit peu de challah, mais sans la détacher complètement de la pâte. Donc, je détache, on va dire légèrement, mais je laisse le morceau de pâte encore attaché. Ensuite, je récite la bracha et après, je détache complètement le morceau de challah. Concernant le texte de la bracha lui-même, il y a deux versions pour les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim ont dit les Afrish challah terunma, les Ashkenazim les Afrish challah minaïsa, mais n'importe qui trouvera les deux versions dans n'importe quel sidour qui se respecte. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle Kriyat Shem. Kriyat Shem, ça veut dire donner à cette challah son titre, son appellation de challah, en disant tout simplement Harezu challah truma, ce morceau-là, eh bien, c'est un morceau de challah.
Quelle est la quantité qu'il faut prélever et disons, que faut-il faire de la pâte prélevée?
Concernant la quantité à prélever, il y a différents avis. La majorité des décisionnaires s'accordent à dire qu'une quantité même infime, un tout petit morceau, suffit. Certains disent qu'il faut un kazaï de 30 grammes et l'opinion la plus exigeante, c'est l'opinion du Harizal qui nous dit qu'il faut prélever 1/48 du poids de la pâte. Par exemple, sur une pâte de 2 kg, il faudra prélever 42 grammes d'après lui. Donc, on va d'après l'avis, on va dire le plus accepté, ça veut dire qu'on prélève une petite quantité. Cette petite quantité qu'on a prélevée, eh bien, il faut retenir que normalement, elle devait aller au Kohanim, ils sont impurs, donc on va devoir s'en débarrasser, on va la brûler, ou alors la jeter dans deux sacs en plastique, mais comprendre qu'elle est considérée comme carrément non cachère, puisque, en fait, on n'a pas le droit de la consommer. C'est pourquoi même quand on la brûle dans le four, il faut l'envelopper dans du papier aluminium pour ne pas qu'elle soit en contact avec la grille, puisqu'elle pourrait rendre la grille, elle aussi, non cachère. Je précise que le Ben Ishraï nous dit que même bien qu'a priori on prélève qu'un tout petit morceau de challah, il est bon, une fois par an, de se rendre quitte de la vie de tout le monde, lui il recommande à l'approche de Rosh Hashanah, et de prélever sur le prélèvement de la challah qu'on fait, la dernière, on va dire, fournée avant Rosh Hashanah, de prélever un 1/48 de la pâte afin d'être quitte également de cette mitzvah d'après tous les avis.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite donc de la pâte prélevée si elle s'est mélangée?
C'est un sacré problème si la pâte s'est mélangée. Quand je vous dis c'est un sacré problème, au point qu'on ne va pas même pas donner la réponse comme ça à la radio, lorsque la pâte se mélange, il faut appeler le rav, il faut faire un tarat nedarim, il faut appeler le rav et voir avec un rav. Une pâte qui se mélange, c'est un sacré problème. Par conséquent, il faut prévoir en amont que la pâte ne se mélange pas. Donc une fois qu'on a prélevé la challah, tout de suite on l'isole, on l'enveloppe et on fait en sorte que cette pâte ne se mélange pas. Ça s'est mélangé, mais vraiment par inadvertance, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Il faut appeler un rav pour nous dire, avant de mettre la challah à cuire, avant quoi que ce soit, on appelle un rav, on lui expose le problème et il donnera la démarche à suivre en fonction de chaque situation.
Et si je me rends compte que j'ai oublié de prélever la challah?
Alors si on a oublié de prélever avant la cuisson, il faudra prélever après sur le pain qui est déjà cuit. Sauf si on est Shabbat et Yom Tov, ça peut poser un problème. Alors en Eretz Israël, si quelqu'un a oublié de prélever la challah avant Shabbat ou Yom Tov, il lui sera impossible de consommer ce pain pendant la fête. Il faudra qu'il attende après pour pouvoir prélever. Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, il pourra manger ce pain pendant la fête, à condition de ne pas tout manger, de laisser un petit morceau et de considérer que ce petit morceau qu'il a laissé, eh bien c'est le morceau de la challah.
Et puis, dernière question, est-ce que c'est une mitzvah pour les femmes? Parce que moi, très franchement, je ne vois que les femmes la faire.
Alors, les femmes ont la priorité pour accomplir cette mitzvah. Ça veut dire que dans un couple, dans un foyer, c'est la femme qui accomplit cette mitzvah. C'est un privilège qui lui est réservé d'accomplir la mitzvah de Hafrachat Challah. Maintenant, ce n'est pas une mitzvah exclusivement féminine. C'est une mitzvah de la Torah ou des Chachamim, selon les situations, qui s'applique à tout un chacun, sur lesquels les femmes ont la priorité. Alors, très souvent, dans les boulangeries ou dans les endroits où on fait de grandes quantités, et parfois il arrive qu'il n'y ait pas de femme, eh bien c'est un homme qui prélève la challah dans ces moments-là, parce que ça reste une obligation. Et là aussi, dans l'esprit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est bon que l'homme, une fois par an, peut-être à l'approche de Rosh Hashanah, là aussi, eh bien accomplisse cette mitzvah, afin d'avoir aussi cette mitzvah à son panel de mitzvot qu'il présentera à Kadosh Baruch Hu le jour du jugement.
Eh bien, Rav David Abendanon, merci. Chaque semaine, 5 minutes, une halakha, grâce à vous. Je voudrais, avec votre permission, dédier notre émission de cette semaine à une œuvre importante, c'est les institutions que Eva Sandler a construites à Jérusalem après le drame de l'école juive de Toulouse où elle a perdu son mari, ses enfants. Elle a créé des institutions importantes à Jérusalem. Et pourquoi j'ai envie avec vous, je sais que j'ai votre accord, de dédier notre émission à ces institutions, c'est parce qu'elle aura son charité qui aura lieu lundi et mardi, c'est le 1er et le 2 février, et qu'il est bien évident qu'on a le souhait qu'elle réussisse dans cette mission. Elle a besoin de faire vivre ces institutions, elle a décidé de faire vivre, de donner comme réponse la vie, un centre communautaire où on étudie la Torah, où on aide ceux qui en ont besoin, les plus pauvres par exemple, et c'est sa réponse à elle au massacre de l'école juive de Toulouse, et donc on a pour but avec vous, Rav David, de l'aider. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous, Rav David Abendanon. Shabbat shalom et Shavuot Tov.
Merci Bernard. Shabbat shalom, Shavuot Tov. Effectivement, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative, que HM nous aide à ne plus connaître de moments difficiles.
Amen. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez nous écouter à la radio et le vendredi soir et le samedi soir. Donc le vendredi, c'est à 16h30. C'est l'émission habituelle de cette émission. Et dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. On se retrouve aussi le samedi soir à 19h. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom. Excellente soirée à tous.